Ce chiot dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zurchanan et Bracha. La question de Hacher.
Bah alors, est-ce qu'il y a tout marqué dans la Torah, même les choses qui sont inutiles en fait pour nous pour vivre quoi. Ça, par exemple, qu'on sache que la Terre elle tourne du Soleil ou des choses comme ça, ça ne nous sert à rien pour réussir dans notre vie, faire notre mission et...
Oui et non. Oui, tout est marqué, non, pas tout est marqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de quelle lecture parle-t-on? Si on parle de la lecture que nous avons, qui est celle qui est lancée par la Torah, on lit Bereshit, Bara Elokim, etc. Alors, pas tout est marqué, c'est clair. Mais, déjà, les Rishonim, les rabbins médiévaux, même la Mishnah qui dit, c'est Ben Balbab ou Ben Hehe, je ne sais pas qui dit cela, qui dit Haforba, Dekulaba. Haforla, renverse-la. Et renverse-la, car tout est en même. C'est-à-dire qu'il y a des lectures qui sont dans des lectures renversées, d'autres systèmes de lecture. Le Ramban reprend ce thème, Narmanide, il dit que toute la Torah, ce sont des noms de Dieu, et nous avons une certaine lecture de la Torah, mais il y a d'autres lectures qui sont possibles, dans un autre ordre. Et c'est clair qu'il est obligatoire que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Midrash que Dieu a vu la Torah et a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah est le plan du monde. En fait, comment a lieu la création du monde? Comme nous, quand nous créons quelque chose. Tu vis à 150 ans, en France, et tu vois, par un beau jour de printemps comme ça, une très belle scène champêtre, et tu es ingénieur. Et lui, c'est dommage que j'aimerais bien pouvoir éterniser cette belle scène. Alors, tu peux vite prendre maintenant une toile. Avec la peinture, tu commences à faire les coquelicots, les machins, les roses, le soleil. Bon, ça prend quand même 5-6 heures en attendant, il fait tout noir et c'est pas live. Et t'es un ingénieur brillant, tu dis, il y a la lumière. Il faudrait que je trouve maintenant une sorte de pellicule photosensible et on ferait peut-être un appareil qui ferait une petite exposition, pas trop longue pour pas que ça soit noirci par trop de lumière, pas trop courte. Et tu inventes comme ça, tu réfléchis, tu penses à l'appareil photo. Après, tu réfléchis, réfléchis, et tu fais le plan, et tu crées l'appareil photo, et clim, tu prends la photo. Ce que tu as à la fin, la photo, c'est ce que tu voulais au début. Ce que tu voulais au début, c'était, il y avait un besoin, une volonté. Je veux avoir une photo en live, d'accord, rapide, de cette scène champêtre. C'est le but. Dans chaque action, dans chaque création qu'on va faire, au début, il y a un but, il y a une volonté. Première chose qui fait que tu crées quelque chose, tu veux quelque chose. On ne crée jamais rien pour rien. Il n'y a jamais rien qui est créé pour rien. Donc, tu voulais. Après, tu as pensé. Tu as même écrit ta pensée, c'est le plan. Après, tu as créé. Donc, il y a trois phases. Volonté, pensée, création. Le monde aussi est créé comme cela. Oui, il y a déjà une question.
Ouais, par rapport, parce qu'il y a l'exemple de la pomme de Newton. C'est-à-dire qu'il n'avait pas eu la volonté, il avait juste vu la situation, et par la pensée, il s'est rendu compte de ce que ça faisait.
Mais
il n'avait pas eu une volonté.
Par une création, maintenant.
Ah, d'une création.
Quand il crée. Idem le monde. On aurait pu croire que le monde, il est créé comme ça, comme ça pour rien. Il y a beaucoup de théoriciens qui disent cela. Le monde est le fruit du hasard, d'accord? Deux anges qui se sont rencontrés il y a quelques milliards d'années, ça a donné moi. Pas mal, hein? Comme accident de la nature, j'ai pas mal réussi. Bon, j'ai pas mal de défauts. Et heureusement que je suis un accident de la nature. Comme ça, je peux faire tout ce que je veux. D'accord? Je peux mentir, je peux voler, je peux faire l'adultère. Pas tout, c'est un accident de la nature. Donc, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Mais bah, au Rachel, il y a aussi la Torah qui dit non. Comment au début de la Torah, elle dit Bereshit. Bereshit, le vrai sens, c'est pour Reshit, pour une chose première. Et aussi ensuite, Bereshit par une chose première. Ça veut dire qu'avant que ce monde soit créé, après les mots, c'est Bara Elokim, Dieu a créé. Pour et par. Pour signifie, il y a une volonté. Par, il y a une pensée. Ce monde aussi, il y a une volonté, il y a un but. Il y a une pensée. Comment on va arriver à ce but? Comme appareil photo, je veux la photo. Après, comment je vais le faire? Appareil photo, je réfléchis. Et après, je crée. Le monde aussi, il est comme ça.
Mais comment avoir une volonté sans penser?
La volonté est avant la pensée. La pensée, elle est l'expression de la volonté. La volonté, c'est une chose qui est Alors, c'est comme... comme quelqu'un qui est amoureux. Il a un sentiment. Il va l'exprimer à sa femme. Les mots utilisés sont l'expression d'une pensée. Sont l'expression d'un sentiment. Sentiment, c'est la volonté. Quand il y a un sentiment, il y a une volonté, une chose qui est au-dessus de la pensée.
C'est sa pensée qui lui donne le sentiment.
Non, il n'est pas pensé aimer, il aime. On ne pense pas aimer, on aime.
Parce qu'il voit la personne, tout ça, donc il pense, il se fait quelque chose dans la tête.
Il pense à la personne, et quand il pense à la personne, il va l'aimer. Ok ? Maintenant, l'amour, il est produit par une pensée. L'amour, il est là. L'amour, tu as la pensée, ça a réveillé l'amour, mais l'amour, il était là, il était latent. Maintenant, tu veux exprimer l'amour, tu vas l'exprimer par une pensée. Tu vas dire des mots. Des fois, on dit, je n'arrive pas à exprimer ce que je pense. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens. Dire, c'est la pensée. C'est une façon de la penser. La pensée, ce sont des mots. Au-dessus de la pensée, il y a la volonté. Donc, la question de la chair, c'était, pourquoi est-ce que tout est marqué dans la Torah ou pas? Alors, étant donné qu'il est marqué dans la Midrash, que Dieu a regardé la Torah et en fonction a créé le monde, ça veut dire que la Torah, qu'est-ce que c'est? La pensée du monde. Et le monde, avant d'être créé, il a été pensé. Or, il est impossible qu'une chose qui soit créée sans qu'elle ait été pensée auparavant. Donc forcément, il ne peut rien avoir dans le monde si ce n'est des choses qui sont déjà écrites dans la Torah. Tout est dans la Torah. À fort pas, renverser cela, des coups là-bas, tout est dedans. Et dernièrement, ce qu'on a il y a une trentaine d'années, deux chercheurs israéliens, des scientifiques Baalei Tshuva, qui sont revenus par la Torah, un mathématicien, un physicien. Le mathématicien s'appelle Eliyahu Rips, le physicien s'appelle Doron Witztum. On utilise l'informatique pour rechercher des codes dans la Torah. Ça commence déjà durant la Seconde Guerre mondiale. Le plus grand héros de la Seconde Guerre mondiale, qui était complètement oblitéré, caché, mis en quarantaine par certains penseurs, historiens juifs et israéliens. Mais néanmoins, à mon avis, c'est le plus grand héros qui a sauvé des centaines de milliers de juifs dans les convois de train durant la Seconde Guerre mondiale. C'était le Rav Avraham Michael Weissmandel, qui n'a pas fait d'actes héroïques avec des fusils et des grenades contre les nazis. Il a fait une chose beaucoup plus intelligente. Il est allé soudoyer des nazis. Les nazis étaient convaincus que les juifs avaient beaucoup d'argent partout, d'accord, la juiverie unie international, et il a réussi à arrêter très difficilement. Il était en Hongrie, donc c'est le premier qui a été incarcéré à Auschwitz, c'est le premier qui s'est enfui d'Auschwitz. Il a envoyé les plans de Auschwitz à l'étranger par la Suisse, donc c'est le premier qui a fait les plans de Auschwitz. Et il a réussi à presque sans rien, mais à rester de récolter de l'argent par-ci par-là alors que tout le monde refusait de lui donner. Il a écrit aux États, il a écrit à l'appel unifié, beaucoup, etc. Moi, en deux mots, il a réussi quand même, durant des mois et des mois, à retarder des dizaines de convois en donnant soudoyant aux officiers nazis. Et c'est un très grand sage en Torah qui a dévoilé des codes dans la Torah. Des codes, ce code dans le jargon des spécialistes, on appelle ça le code simple. Le code simple de 50. C'est quoi le code simple de 50? 50, c'est un chiffre assez significatif dans la Torah. C'est 7 fois 7 plus 1. On voit que cette notion revient beaucoup dans la Torah. On a 7 fois 7 jours entre Pessah et Shavuot, et Omer. On a 7 fois 7 années. La 7e année, l'année prochaine, c'est l'année Jachère, la Shvit. Au bout de 7 fois 7 années, il y a le Jubilé, le Yovel, la 50e année. C'est une notion qui revient assez souvent. Il y a même certains qui disent qu'il y aura... Le monde, il a 6000 ans d'histoire, plus le 7e millénaire qui est un monde détruit, il n'est que spirituel, le monde physique est détruit, il n'est que spirituel, c'est que le Shabbat. Mais qui disent qu'il y aura 6 fois ce cycle-là de 6 et 7, et après on rentre dans un Shabbat universel qui lui aussi est de 7 millénaires. D'accord ? Donc on a 7 fois 7 millénaires. Donc c'est une notion qui revient beaucoup. Lui, il est adapté dans la Torah. Il a remarqué que chaque fois que la Torah parlait d'un sujet, le nom du sujet apparaît au même endroit à un intervalle régulier de 50 lettres. On parle de Abraham, tu as le mot Abraham, tu as Aleph, 50 lettres, Pet, 50 lettres, Resh, 50 lettres, Hem, 50 lettres, Met, etc. Tu parles de n'importe quoi. Ok, c'est un truc. Dans 80% des cas dans la Torah, on trouve ce code-là. Ok, très sympathique. Il a trouvé aussi d'autres choses sympathiques. On ne va pas peut-être trop en parler maintenant. C'était le code simple.
De tête.
Les... de tête. Et c'est extraordinaire. Le Stipler, le père de Rabbi Kanevski, Rabbi Israël Yaakov Kanevski, Yaakov Israël Kanevski, qui était le grand de la génération, il y a une vingtaine, trentaine d'années, il a dit qu'il fallait voir à quoi d'être l'esprit saint de clairvoyance pour trouver des choses pareilles. Et trouver des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Les deux scientifiques ont repris la méthode de trouver des mots par intervalles réguliers de lettres, qui d'ailleurs est rappelé déjà dans les écrits médiévaux, d'accord ? Mais ils ont pris l'informatique. Et, bon, je vois qu'on est parti, on n'est pas sur des codes. En deux mots, je te fais le, très rapidement, comment le principe du code. Le principe du code est le suivant. Et le suivant, c'est qu'on cherche deux mots qui ont une relation sémantique. C'est quoi une relation sémantique ? Une relation de sens entre eux. Par exemple, HR, sous-sang. D'accord ? Ben sous-sang ou sous-sang ?
Sous-sang.
Sous-sang. Ce sont deux mots qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. HR, sous-sang, voilà, aucun rapport. Si c'est un rapport dans la réalité, parce que c'est la même personne. Prénom et nom. D'accord ? Et on recherche maintenant le mot HR dans toute la Torah. En fait, ils ont fait ça par livre. Ils ont fait ça sur Bereshit. On cherche le mot HR dans Bereshit, intervalle régulier de lettres. On le trouve au moins 3000 fois. Aleph, 3000 lettres. Shin, 3000 lettres. Resh. Après, on a HR, Aleph, 3000 lettres. Shin, 1000 lettres. Shin, plus petit. Une séquence de 1000. 1000 lettres. Resh. Après, séquence de 50. Aleph, 50 lettres. Shin, 50 lettres. Resh. Et on trouve aussi une fréquence, très petite. Aleph, deux lettres. Shin, deux lettres. Resh. On trouve, comme je l'ai dit, 1000 fois le mot HR dans Bereshit à intervalles réguliers de lettres. Mais le plus petit, c'est celui-là, de deux. On va choisir celui-là. Pourquoi ? Du point de vue statistique, il n'y a aucune raison. Parce que tu as autant de chances statistiques de trouver un mot à intervalle de deux lettres qu'un mot à intervalle régulier de 3000 lettres. Du point de vue... sentimental, on a l'impression que c'est plus dur de faire quand c'est petit que quand c'est grand. Donc on prend le petit, on le trouve un verset qui est dans ce sens-là. On voit que l'intendant de Yosef était, il a poursuivi les frères de Yosef et il a cherché dans leur sac pour trouver la coupe d'argent. Et il a commencé par chez le plus grand et a trouvé chez le plus petit. C'est-à-dire, on cherche partout, le grand intervalle, mais on trouve où le plus petit ? Le plus petit, celui qui est la séquence plus petite. Donc, HR, intervalle régulier de deux lettres. Aleph, deux lettres. Shin, deux lettres. Resh. Tous les autres, on base. On cherche maintenant sous-sang. Sous-sang, c'est un mot déjà plus compliqué. Il a cinq lettres, d'accord ? On le trouve peut-être quatre fois dans Bereshit. Une fois intervalle 3000 lettres, une fois intervalle 150 lettres, une fois intervalle 80 lettres, une fois intervalle 30 lettres. On base tous les grands intervalles et on garde que l'intervalle... Le plus petit, celui de, comment j'ai dit, 30 lettres. 30 lettres. Ok, alors j'ai maintenant le mot HR, intervalle minimal 1, 3. On va appeler cela X. J'ai le mot sous-sang, un endroit, intervalle, pas le même intervalle, mais c'est plus petit, un endroit Y. Et ce qui est stupéfiant, c'est que dans la majorité des cas, lorsqu'il y a, enfin, ils ont fait une étude statistique très très claire là-dessus, d'accord ? Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'il y a un rapport sémantique dans la réalité entre les deux mots, il y a un rapport géographique, c'est-à-dire que X égale Y. On le trouve au même endroit. Et ça, c'est bizarre. Il n'y a aucune raison. Que je trouve HR à un endroit, ok, je trouve sous à un autre endroit. Bon. Mais que les deux sont au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation entre eux dans la réalité, on le trouve au même endroit. Alors comment ils ont fait ? Comment ils ont prouvé ça ? Ils ont fait une étude qui a été vérifiée par les savants de la revue statistique la plus fameuse aux États-Unis, qui s'appelle c'était un truc super solide. Et ils ont montré leur étude. Leur étude était la suivante. Ils ont pris le nom de 70. Ils ont pris comme ça. Ils ont pris l'encyclopédie des rabbins. Encyclopédie des rabbins, un truc non religieux, d'accord ? Et il faut toujours prendre des critères très, très triviaux, pas des choses que... Pas que nous, on induit le résultat. Donc on choisit comme ça, ils ont choisi. On va prendre tous les grands rabbins. Qu'est-ce qu'on appelle un grand rabbin ? La grandeur de leur barbe, la grandeur du chapeau, la grandeur de son nom. Et on dit tous ceux à propos desquels il y a au moins une page entière dans l'encyclopédie des rabbins. Une page entière. D'accord ? Ils ont trouvé 35 noms. 35 noms de grands rabbins. Ils ont pris leur date de naissance ou de décès. Et ils ont tapé. Tous apparaissent. Et l'immense majorité, il y a une proximité très grande entre l'endroit où apparaît le nom du rabbin et sa date de décès ou de naissance. Ils ont fait une étude statistique. Non, ils ont fait ça. Ils ont trouvé un très bon résultat. Ils ont pris maintenant une nouvelle liste. Ils ont pris le rabbin moyen. C'est quoi rabbin moyen? C'est une demi-page. Entre une demi-page et une page entière. D'accord? Plus une page entière et plus, c'est un grand rabbin. Moins d'une demi-page, c'est un rabbin moyen. Rabbin moyen, ils ont de vous aussi une trentaine, 35 ou 40 rabbins, je ne sais plus exactement. En tout, c'était 70 rabbins. Et là aussi, ils prennent les dates de naissance ou de décès, et de nouveau, hop, on voit quelle proximité. Ils font une statistique, ils sont arrivés à 10 puissance 16, je me souviens bien, quelque chose comme ça. Milliards de milliards sur le fruit du hasard. 1 milliard de milliards sur le fruit du hasard. Quelque chose de cet ordre-là, phénoménal. Le responsable, le directeur de cette revue statistique, là, c'est pas lui, il donne ça à des référents, des grands savants qui vérifient et qui acceptent d'éditer leur article. Il dit, c'est une extraordinaire, amazing, c'est en anglais, d'accord, super, super enthousiasmant, voilà, que dans la Torah, on trouvait des choses pareilles. Bon, ça fait un tollé général, évidemment, parce que si la Torah est vraie, alors c'est mal barré pour beaucoup de gens dans le monde. Néanmoins, nous, à l'époque, on montrait ces codes-là, et on trouve presque tout. Je me souviens qu'à l'époque, on montait la Révolution française. Marie-Antoinette. Louis XVI. La famille des Bourbons. Moi, j'ai pas fait l'histoire suisse, d'accord. J'ai dû apprendre l'histoire française pour ça. La Marseillaise. Tu vois dans la Torah le mot la Marseillaise.
Mais est-ce
tout même endroit. Pardon ?
Avec d'autres livres, on peut pas faire ça.
On peut pas. Bien sûr qu'ils vont essayer. Des trucs comparatifs, bien sûr.
On voit des trucs sur nous.
Alors. Alors, évidemment, il y a tout le monde qui dit ah, c'est fantastique, on voit le futur. Alors, ouais, il y a un escroc.
Alors, il s'appelle
Michael D. Je ne dirais pas son nom, je ne vais pas me faire attaquer par lui. C'est un grand escroc qui a récupéré quelques codes de ces deux scientifiques, les deux, trois premiers codes qui sont des vrais. Après, il a mis 10 000 codes, un millier de codes à lui inventés, faux. Je lui dis, c'est quoi un code vrai, un code faux. Et il a annoncé des tas de trucs, la fin du monde, et il a fait des ventes, quelque chose. C'était la fortune la plus rapide, pas la plus grande, la plus rapide de la même année, où il a un grand escroc, il s'était en procès des années, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège. Le piège est, c'est que, maintenant, on va dire, par exemple, voilà, il y en a, je peux aussi des tournements sur Internet. Super gentil garçon, les rechamins, et charmant. Voilà. Je cherche maintenant sa cala. Pourquoi me casser la tête, Shidokim, machin? Je suis un grand informaticien, je vais taper mon nom. Yonat, toi, et tac, 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 tac. Bon, maintenant, je vais prendre mon agenda, toutes les filles que je connais. Bon, allez, Rachel. Oh, rien, heureusement. Bon, allez, Isabelle. Ah non, dommage. D'accord? Et comme tac, 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 où il tombe? Allez, Sarah, boum! On voit Yonat, Sarah, mariage. Date de naissance des deux, beaucoup d'enfants, Parnassa, tout ça. Alors, c'est elle ou c'est pas elle?
C'est elle.
C'est pas elle. Rien à voir. Pourquoi? Ça, c'est un peu fin. L'étude, elle a prouvé qu'une proximité sémantique, dans une proximité dans la réalité, se retrouve dans la Torah en proximité géographique. Mais cela ne signifie absolument pas que toute proximité géographique signifie qu'il y a une proximité sémantique. Je m'explique. Dans la même page de Torah, où apparaît le nom de Yonah et de Sarah, il y a combien de mots qui sont écrits en code? Des millions. Des millions. Et peut-être que par hasard, il y a l'histoire de Yonah. Avec sa femme, c'est pas Sarah, c'est... Donne-moi un nom. Suzanne, d'accord? Et il y a l'histoire de Sarah et Moshe. Sarah se met avec Moshe. Yonah se marie avec Suzanne, les deux sont dans le même paracha. Rien à voir, c'est pas parce qu'ils sont dans le même endroit que ça veut dire que forcément ils sont ensemble. Quand ils sont ensemble, dans la réalité, ils sont au même endroit. Mais pas tous ceux qui sont au même endroit, ils sont forcément ensemble. Alors, l'escroc, Michael D., qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé comme ça, guerre atomique. Le monde est détruit, il tape des dates, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006, quoi, 2006, bombe atomique, 2006, guerre atomique. Il a dit, voilà, en deux, le bouquin, il a parlé en 2002, c'est intelligent, d'accord, 4 ans à l'avance, c'est pas trop loin, pas trop proche, d'accord. Donc, hein, voilà. Donc, il met 2006, guerre atomique, d'accord, les gens, ils voient ça, ils s'achètent le bouquin, complètement faux, d'abord, on ne sait même pas si c'est vrai, même si c'est vrai, ça ne veut rien dire, 2006, c'était la date, où j'ai acheté un pot de fleurs à ma fiancée, d'accord. Et bombe atomique, c'était un autre code qui n'a rien à voir avec la date. Donc il est impossible de connaître le futur. Première raison. Deuxièmement, la Torah va donner tous les futurs possibles.
Et elle y aura.
C'est beaucoup de choses. Des fois, on passe près d'une catastrophe, et puis Baruch HaShem, Dieu a eu pitié, on a fait tchouba, et on n'a pas eu la catastrophe. Et peut-être que se marier avec Sarah, c'est une catastrophe, d'accord.
Pour les élections, par exemple, on va voir qu'il y a plusieurs présidents.
Absolument, absolument. Il y a un cas que m'a raconté, je racontais ça à l'époque, je racontais dans le séminaire, qui était très beau, je le raconte aussi maintenant. C'est le chercheur Doron Witztum. Bon, lui m'a dit que jamais il n'a jamais rien cherché pour lui-même. T'imagines la force de caractère. Il dit, c'est pas un truc de cherche pour ça, c'est un truc scientifique. Maintenant, je fais une étude, je ne vais pas chercher pour ça. Jamais il a cherché pour lui-même. Et c'est vrai qu'il y a sa botte, t'imagines un peu comment il s'est saboté après. La vie, c'est une vie, c'est oui, non, alors peut-être que non, peut-être que non. Dieu a laissé tout caché, c'est bien qu'il reste caché. On était en 90, Saddam Hussein conquis le Koweït. Bush, le père Bush, gèle les avoirs irakiens en Amérique, fait un ultimatum. Et on passe de l'été, on avance l'automne, septembre, octobre, novembre, etc. Ça avance lentement. Premier ultimatum, 30 jours, après deuxième ultimatum, il commence à amener des forces. Saddam Hussein, il dit, plus qu'ils viennent, vous serez comme des feuilles sèches qui partiront dans le vent d'automne, je dors tranquille sur mes deux oreilles. Comme ça, il ne s'est pas gêné, d'accord. Et dernier ultimatum. Dernier ultimatum qui doit finir à une certaine date. On savait qu'il avait des missiles Scud, on savait qu'il avait des chimiques, on savait qu'il avait visé Israël. Et qu'est-ce qu'il fait dans le missile? Il commence à chercher, il trouve. Et j'ai les codes à la maison. Saddam Hussein, c'est des codes très rapprochés. Saddam Hussein envoie des Scud vers Tel Aviv et trouve la date, le 7 Shvat. Si vous vous souvenez bien, c'est le 7 Shvat. 7, il tape comme ça, il tape. Il avait environ 20 dates qui amènent jusqu'à l'ultimatum, un peu avant, un peu après. Il tape les dates. Donc il fait premier choix, rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac, ça tombe, 7, en plein dedans. 8, 9, 10, 11, 12, plus rien. D'accord ? Il s'est dit, c'est le 7. Je peux me tromper, parce que le 7 choix, maintenant, c'est la date d'anniversaire d'Isabelle qui marque la Torah ici. On n'est pas certain. Mais il s'est dit, il a passé la nuit, pas chez lui, mais dans l'abri. Et effectivement, c'est cette nuit que les scuds sont tombés. Et chose extrêmement intéressante que je racontais dans les séminaires, elle est très très belle aussi. Il a vu donc les scuds, donc il envoie des scuds qui vont détruire et il voit Tel Aviv. Sauf que Tel Aviv était visé, pas Jérusalem, Tel Aviv. Et il voit un autre code à côté qui est marqué, vont détruire Bet Tel Aviv, dans Tel Aviv. Un code dit vont détruire Tel Aviv et l'autre dit vont détruire dans Tel Aviv. C'est quoi la différence entre détruire Tel Aviv et détruire dans Tel Aviv? Dans Tel Aviv, c'est quelques maisons passées par là. Tel Aviv, elle est rasée. On a su après la guerre. Il était très, très célèbre à l'époque, il s'appelait Nachman Shai. Je ne sais encore de son prénom, mais j'ai une mémoire lamentable pour ce genre de choses. C'était le porte-parole de l'armée à la radio. Parce que lorsque les scuds étaient envoyés, on ne sait pas si c'était des armes conventionnelles ou chimiques, donc tout le monde rentrait dans les chambres étanches. On allumait la radio, on écoutait quelle région était touchée, ce qu'on peut sortir, je me souviens, ma fille aujourd'hui, elle est déjà maman, d'accord, elle avait 6 mois, on devait la mettre dans une cage comme ça, anti-gaz, elle braillait, elle hurlait, elle a panique terrible, d'accord, panique. On s'attendait à avoir les petits nuages verts dehors, voilà, vraiment, vraiment difficile, on ne savait pas, ça poussait, il était fou, il avait du chimique, il n'a pas envoyé du chimique, il n'a envoyé que des armes conventionnelles. À la fin, quand il y avait la sirène, on restait à dormir. Au début, on était sur la panique, et après, on savait qu'il n'y avait rien. C'était pas trop grave, Jérusalem n'était pas visé, donc on continuait à dormir. Néanmoins, au début, il y avait une grande panique. Lorsqu'on était dans ces chambres, dans la chambre, qui nous disait qu'on pouvait enfin sortir? Nachman Shai. Nachman Shai, c'est le porteur de l'armée. Il dit la région, il y avait A, B, C, on était touchés, B, C pouvait sortir, B doit encore rester. Et lui qui racontait après qu'est-ce qui se passait, etc. C'est lui, donc, notre contact avec l'extérieur, et qui nous racontait ce qui se passait. Nachman Shai, après la guerre, a été invité dans une yeshiva, yeshiva de Nechalim, qui a fait un grand repas de remerciement à Dieu des miracles de la guerre. Il a dit, je ne suis pas religieux, mais je ne pratique pas, non seulement pour faire honneur à l'endroit, si je pouvais, j'apportais toute la journée, tellement les miracles que j'ai vus sont extraordinaires. Je ne peux pas raconter beaucoup, je raconte un seul miracle. Saddam Hussein menaçait qu'il détruirait Jérusalem, qu'il détruirait Tel Aviv. Il savait très bien de quoi il parlait. Vous savez, d'ailleurs, il faut comprendre que pendant les 6 mois avant la guerre, d'accord, depuis le moment que Saddam Hussein a investi le Koweït jusqu'à la guerre, qui était au mois de juin, donc il y a eu 6 mois, la vedette à la radio, c'est Saddam Hussein. T'as pas un jour où t'as trois ou quatre officiers, où t'as pas quatre, trois ou quatre officiers qui viennent être interviewés à la radio, que pensez-vous de ci, de ça, sa personnalité, comment il est, etc. Et ça, c'est vrai, sans cesse, on entendait, Saddam Hussein, on sait que s'il menace, ce ne sont pas des menaces envers. Quand il dit, il peut exécuter. Or, Saddam Hussein disait, je vais détruire Tel Aviv, elle partira dans les flammes. Nachman Shai dit, il savait de quoi il parlait. Il y a au nord de Tel Aviv un réservoir de gaz, Soman Bilot. Si ce réservoir de gaz est touché, par les conduits de gaz, il y a une explosion qui s'éparpille dans la ville entière, toute la ville aurait pris feu. Au milieu de la nuit, le garde dans le réservoir de gaz, et dans sa petite cabine là-bas, il voit lumière à l'arme rouge qui s'allume, fuite dans le réservoir. Il prend sa lampe de poche, il va regarder, il n'y a aucune fuite, il ne comprend pas. Il revient dans la cabine de contrôle, quoi. Lumière. Il dit, je ne prends pas de risque, je vide le réservoir. Il vide le réservoir. Le réservoir est vidé, un scud touche le réservoir de plein fouet.
Non.
Si il n'y avait pas eu cette lumière qui s'allumait, qu'on se bat aujourd'hui, comment ça veut dire c'est allumé et éteinte, le scud touchait le réservoir et toute la vie partait dans les flammes. Donc il y avait deux codes. Un code qui disait détruire Tel Aviv, cette éventualité qui pouvait avoir lieu, et un code qui disait détruire dans Tel Aviv, pas tout Tel Aviv. De quoi ça dépend? Ça ou ça dépend de nous. Que faisait Am Israël?
Et lui, il est mort.
Non, le réservoir, en cas comme une écoute pour le réservoir, il y a quand même de 300 mètres. Il avait un grand boom dans les oreilles, oui. Il faut comprendre que le monde entier, dès qu'il y avait des scouts qui partaient d'Irak pour Tel Aviv, le monde entier s'arrêtait. Les nouvelles, les feuilletons, les films, tout ça à la tête, des scuds sont en vol pour Tel Aviv. Ça prenait 6 minutes. Une minute pour qu'on détecte le scud qui est en vol. Deuxième minute passait que ce signe de détection passait par un satellite qui était au-dessus de l'Irak, un satellite qui était au-dessus de l'Australie, de la Bosnie, de la Colombie, et là, le monde entier savait. Ça prenait 2 minutes, ça faisait plus que 4 minutes. 4 minutes. Pendant 4 minutes, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde entier, on sait, dans quelques minutes, ces armes, ce n'est pas des chimiques. Chaque bombe pesait 350 kg, c'est énorme le pouvoir destructif que ça a. Des bâtiments entiers partaient en cacahuètes. Dans quelques minutes, elles tombent sur Tel Aviv, sur des innocents. C'est pas notre guerre, c'est la guerre entre l'Amérique et l'Irak, c'est pas notre guerre. Des femmes, des enfants, des civils. 15 millions de juifs dans le monde, croyants ou pas, religieux ou pas, qu'est-ce qu'ils font?
Ils prient.
Les religieux, ils prient. Les non-religieux, ils disent, si seulement. Et les non-religieux, combien ont fait le chouva? Pendant 4 minutes, elle ne dira pas tous les 15, 10 millions parmi les 15 millions, 10 millions de juifs, simultanément, prient à Dieu, demandent à Dieu, en pensée. Alors Dieu, on l'appelle, il ne répond pas. Béni Israël est au bord de la mer Rouge, il voit l'Égypte qui arrive, il voit la mer des vagues énormes. C'est marqué, Vayirou Meod, ils ont été terrorisés, Vayitzakou et la jeune, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié, tout un Israël crie à Dieu. Dieu ne répond pas. Dieu n'a pas de problème. Le copain lui fait ce qu'il veut, c'est son nom. Il veut que nous l'appelle. Et là, pendant ces 4 minutes, le monde entier, tous les juifs ont appelé Hachem. Tous. Allez, pas tous. 10 millions. 10 millions ont appelé Hachem. Il ne répond pas. Et il fait des miracles. Et il y a eu 39 scouts qui sont tombés sur Tel Aviv. Zéro mort. C'est un miracle. Je ne sais pas comment on vous explique statistiquement, mais statistiquement parlant, c'est impossible. Tu as 39 scuds, chaque bombe 350 kg qui tombe sur une ville habitée. Les gens habitaient à Tel Aviv, c'est pas parti. Donc, ben, moitié dans la rue, moitié dans les bâtiments. J'ai encore les films de l'époque, on a fait un film. Dans chaque bâtiment, tu as environ 50 personnes. Le bâtiment explose. Les personnes voltigent dans les airs, à la fin, il y a zéro mort. 10 000 appartements détruits. Il y a eu un mort, de crise cardiaque. Donc, alors, Hachem, que nous fasse des miracles comme il nous a fait pendant cette fête de Hanouka qui vient de se terminer, que nous fasse des miracles comme il nous a fait durant la guerre du Golfe, que bientôt, que ça se voit à tout son peuple, pour qu'enfin le monde entier revoie la grandeur de Hachem. Bah,
ouais. Amen. Amen.